Commission Gravel-Fontaine, on revient ce matin sur la divulgation des états financiers, des salaires, des avoirs, des dirigeants des différents partis politiques. Ça a été lancé hier. Tout le monde s'est prêté au jeu. Pas toujours de gaieté de cœur, mais tout le monde le fait. Et on se pose la question ce matin, est-ce que ça vaut la peine comme exercice démocratique? Est-ce que c'est utile au vote? Hélène et Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon matin.
Bonjour, Steve.
Laquelle de vous deux se prononce en premier?
Oh, je peux bien y aller. En fait, la question que je me posais, c'est effectivement, on sait que ça vient des États-Unis. C'est là que ça a commencé, où on disait que ça avait quand même une certaine importance de pouvoir évaluer la capacité de gérer des candidats à un poste de leadership, évidemment, au niveau du gouvernement. Et puis, c'est venu de ce côté-ci de la frontière. Est-ce que c'est pertinent? Ça dépend pour qui. Puis, ça dépend de quel œil on voit ça. Fait que, finalement, moi, quand j'ai vu que les quatre avaient dévoilé un peu leurs avoirs, je me suis dit, faut pas oublier ceci, c'est qu'il y en a 3 sur 4. Puis là, j'exclus Manon Malcé, qui n'a pas encore fait, en tout cas de mémoire, 2 mandats. Donc, qui n'a pas encore droit à un fonds de pension. Faut pas oublier que les 3 autres... au-delà de ce qu'ils nous ont divulgué, ils vont avoir en plus un fonds de pension passablement généreux. Fait quand j'entends Philippe Couillard dire « Écoutez, j'en ai à peine suffisamment pour les prochaines années », ben faux, il va avoir quand même un fonds de pension de la REGOP, puis en plus un fonds de pension du secteur public. Mais par exemple, moi, qui est plus versé en économie, en tout cas pour qui l'économie a beaucoup d'importance, quand je regarde ça, j'en tire une conclusion. C'est qu'on dit souvent aux gens, surtout aux jeunes, qui ne sont pas certains d'avoir un bas de laine qui est issu de l'État lorsqu'il atteindra la retraite.
Ils n'auront pas de fonds de pension.
Non, c'est ça, on leur dit, faites attention et planifiez bien votre retraite. Quand je regarde ce que Manon Massé a fait, là, puis de mémoire, je pense qu'elle a accumulé 45 000 $ en tout. Manon Massé a 55 ans, ben, je me questionne manifestement.
C'est une trentaine de milliers de dollars en REER, là, c'était pas.
C'est ça, non, c'est ça. Là, rien en termes d'immobilier. En fait, c'est moins que la moyenne québécoise, il ne faut pas se le cacher. Puis elle qui aspire à un poste de gestionnaire d'État, bien là, je me questionne.
Donc, toi, tu dis, c'est quand même pertinent. Ça montre une capacité de gestion ou non?
Ça a une certaine pertinence. Mm-hmm. En fait, ça nous en révèle peut-être un peu sur, d'une part, les priorités. Puis, je suis, tu sais, bon, Manon Massé, quand je l'écoute dire « je veux prendre soin de mon peuple », je ne peux pas faire autrement que de dire, mais évidemment, elle le pense parce qu'elle a travaillé toute sa vie dans le secteur communautaire, qui n'est pas un secteur qui est payant.
Puis je ne veux pas être méchant, mais quand tu regardes les avoirs de Philippe Couillard, est-il le neurochirurgien le plus pauvre du Québec?
Oui, c'est sûr. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y aura un fonds de pension.
Ça fait 2 déclarations maladroites qu'il a. La première sur le 75 $ par semaine. Hein, on constate que lui, il n'a pas cet enjeu-là. Le deuxième sur « j'en ai juste assez pour les prochaines années », ben je m'excuse, mais il y a probablement beaucoup plus de gens qui se retrouvent dans la situation financière de Manon Massé que dans celle de Philippe Couillard.
Au Québec,
Manon
ben
Massé,
oui.
Ben évidemment, oui. On peut se questionner sur « a-t-elle préparé sa retraite ?» Tout ça, en même temps, ça met en lumière, je pense, cette femme-là qui a travaillé toute sa vie dans des organisations communautaires ou des organisations de défense du droit des femmes, à quel point quand tu choisis ça comme carrière, comme vie ou comme engagement, tu le fais pas pour des raisons financières, puis ça peut te mettre toi-même dans des situations précaires. Je pense qu'il y a ça. Moi, je pense que c'est pertinent de dévoiler les avoirs financiers des chefs. Ne serait-ce que, tu sais, l'imbroglio qu'il y a eu entre Philippe Couillard et François Legault sur est-ce que ces impôts latents sont dus à quoi, je pense que ça nous aura permis, et surtout à Philippe Couillard, d'enlever la question des paradis fiscaux.
Oui, parce que tout le monde se posait la question. Faut pas se
cacher. On est à l'ère de la lutte à l'évasion fiscale et à l'évitement fiscal. Donc, on veut savoir, effectivement, eux, est-ce qu'ils prêchent par l'exemple? Là, je pense que pour Philippe Couillard, c'est une bonne chose. En 2014, il y avait eu ce débat-là sur est-ce qu'il y a encore de l'argent dans des paradis fiscaux. Là, il nous confirme qu'il n'y en a plus. Dans le fond, c'est une bonne chose pour lui.
Oui, parce que l'on planait depuis longtemps, là.
Parce
surtout
qu'on
quand on a vu son bilan financier, on s'est dit, c'est pas possible.
Ben, parce que lui, tu sais, ça a été des... écoute, je peux citer le devoir, mettons, 27 mars 2014. Le chef libéral Philippe Couillard a placé 600 000 dans un compte bancaire de l'île de Jersey, qui est considéré comme un paradis fiscal. Tu sais, ça a été évoqué à plusieurs reprises de dire, il y a de l'argent, elle est placée ailleurs. Et il aurait fait ça pendant les années où il travaillait en Arabie Saoudite.
Si entre 2014 et maintenant, il n'avait pas rapatrié ses fonds, on va dire une affaire qui aurait eu une mauvaise semaine cette semaine. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a personne dans les 4 chefs qui a hésité une seule journée avant de dévoiler ses avoirs.
Ah, Philippe Couillard, ça a pris plus de temps là, de mémoire.
mais quand même pas très longtemps. Ouais. Ça montre à quel point ça peut être ça peut devenir un enjeu de campagne quand ils le font pas. Tu sais, tu parlais des États-Unis à la dernière campagne présidentielle, à quel point les rapports de taxes de Trump ont pris du temps à sortir, puis à un moment donné, c'est devenu quelque chose qui a traîné.
Là, malheureusement, on ne peut pas dire que ça lui a nuit tant que ça. Hein,
finalement, non.
Malheureusement, on a la mémoire courte. Là.
Et outre les avoirs, des fois, la provenance est aussi intéressante. Moi, c'est comme ça que je le perçois aussi. Qui t'a financé?
Ben moi, curieusement, là, quand j'ai regardé ça, puis je me suis amusé à faire une espèce de scénario, j'ai trouvé que Jean-François Lisée, qui est un homme qui a enseigné, qui a travaillé dans la fonction publique, avait quand même réussi à s'amasser un bas de laine fort intéressant.
Puis
François Legault, ben, personne n'a été surpris du 10 millions, je pense. C'est un homme d'affaires qui a été prospère. Ça a été un candidat vedette pour le Parti québécois. C'est un gars qui s'est compté. Ça, on n'en doute pas.
C'est sûr que c'est de l'information personnelle. Mais moi, je fais un lien avec ce dont on a parlé en début de campagne. La façon dont Gertrude Bourdon a géré son entrée en politique. T'sais, on dit est-ce que ces échanges textos sont d'intérêt public ou pas. Ça disait quelque chose sur la personne, sur la façon dont elle a des relations. Je pense que c'est la même chose pour les avoirs financiers et la gestion de leurs avoirs. Ça dit quelque chose sur les valeurs, sur les priorités, puis sur la façon dont ils agissent eux-mêmes, puis sur la façon dont ils vont prendre les décisions quand ils seront en des postes de fonction dans l'État.
Si on regarde, par exemple, Manon Massé, je reviens encore avec le peu d'argent qu'elle a mis de côté. Pour moi, il y a une forme d'irresponsabilité par rapport à ça, ne serait-ce que par rapport à elle-même. Oui, je peux comprendre que c'est une personne excessivement altruiste, mais si elle n'avait pas eu le fonds de pension du gouvernement, qu'elle aura fort probablement parce qu'elle sera élue, elle aurait besoin des subsides publics là, pour l'aider. Il ne faut pas se le cacher. Et n'importe quel conseiller financier qui l'aurait retrouvé devant lui aurait dit « Madame, dépêchez-vous, parce que là, ça commence à urger. Vous allez être dépendante pour le reste de vos jours. » Et ça, qu'est-ce que ça me dit? C'est que j'y confierais pas les fonds publics. Ça, c'est sûr.
En même temps,
elle est bonne pour dépenser, mais pas nécessairement pour planifier.
Frappée de plein fouet par un problème qui va toucher un très grand nombre de Québécois, mauvaise gestion financière, un problème qu'on pourrait commencer à régler très tôt en ayant des mesures d'éducation financière beaucoup plus solides. Puis, faut faire face aussi au fait que nos régimes de retraite ont été très généreux pendant longtemps, puis que nous, les plus jeunes qui allons suivre, n'en auront pas de régime de retraite.
Et tu sais, il y a quelque chose là-dessus. Tu ne peux pas l'accuser de problème d'authenticité. Et de l'autre côté, par exemple, François Legault est cible de « vois-tu à quel point il est déconnecté de la base et du peuple? » Tu sais, tu peux cibler comme ça. Ça peut être utilisé de cette façon-là.
Mais de l'autre côté, tu dis « je veux qu'on prêche par l'exemple ». Dans le cas de Manon Massé, est-ce qu'on pourrait dire que cette dame-là, et là, je veux juste, là, évidemment, on parle d'un petit scénario, là, juste à la lumière du bilan qu'elle a déposé, est-ce que cette dame-là donne l'exemple d'une bonne gestion financière? La réponse est non, manifestement. Est-ce que ça donne l'exemple d'une gestionnaire qui va faire de la planification, donc qui va avoir une vision long terme du bien-être collectif? Pour moi, la réponse est non.
Autre question pour vous. Considérant le concept Québec solidaire, aurait-on dû obliger également Gabriel Nadeau-Dubois à dévoiler ses avoirs?
C'est un...
Moi, je pense qu'on fait ça avec ceux qui aspirent à être premier ministre. Okay. Un peu de la même façon
comme Véronique Yvon, dans le fond. Non, moi, je pense
non?
pas.
Okay.
Non, non.
Une fois qu'ils sont élus, ils ont des obligations de divulgation aussi à l'égard de ce qui pourrait être potentiellement des conflits d'intérêts, tout ça. Moi, il y a une autre chose que j'ai notée qui est intéressante quand même, c'est que, tu sais, on n'a pas... On parle des actifs de 10 millions de François Legault, qui est dans le fond le chef le plus riche. Mm-hmm. C'est quand même pas un super riche.
Non.
Puis,
il n'est pas dans les milliardaires.
Ça nous montre aussi qu'il y a de l'espace dans notre système politique pour des gens qui viennent de tous les milieux, de toutes les tranches de la société. Puis que notre système est accessible même à ceux qui ont moins de revenus.
Oui,
je pense que ça, c'est un succès collectif.
Puis il est fort à parier que si François Legault avait choisi de rester dans le privé, il y aurait probablement eu plus que 10 millions.
Mesdames, merci beaucoup pour votre commentaire ce matin. J'aimerais qu'on se laisse avec un petit peu de violon, s'il vous plaît.
Rien ne justifie un salissage aussi malicieux que celui auquel il se livre. Je vais le dire de façon très claire. J'ai pas un sou à l'extérieur du Québec. J'en ai à peine assez pour mes prochaines années. Vous avez vu mes états financiers.
Au plaisir de se parler demain. Ben non, mais Colin, il est neurochirurgien. On peut-tu pleurer sur d'autres choses à matin, là? Ah ben ouais.